RCF.
Bonjour à tous et bienvenue au pied de la lettre, le rendez-vous avec la littérature sur RCF. La vie nous échappe et il n'y a que les mots pour la rattraper, non pas pour la lier comme une botte de foin, mais au contraire pour lui donner des ailes, même quand les jours sont trop lourds. Christian Bobin écrit à grands traits de feutre noir des lettres appuyées qui dessinent des mots et des images. Pas étonnant qu'il se trouve en amitié avec Pierre Soulages et ses œuvres outre-noir. Une nuit de décembre, suivre l'itinéraire, aller jusqu'à la rencontre et puis laisser chacun être ce qu'il est. Pierre, de Christian Bobin, est publié chez Gallimard. Patrick Clou cultive ses récits comme il ensemence son jardin auvergnat. Fait de mille éclats de vie, son dernier journal est marqué au fer rouge par la maladie de sa femme aimée, la complice éternelle. Que dire, que faire si ce n'est écrire les traces de cette vie fragile ? Durée encore, de Patrick Clou, est publié chez Actes Sud.
Au pied de la lettre, Christophe Héning.
Bonjour Christian Bobin.
Bonjour.
On va y venir, hein. Vous nous racontez votre émotion devant le travail de Pierre Soulages. Pour lui, dans votre livre, vous quittez le Creusot, prêt à traverser la France pour lui rendre visite jusqu'à Sète. Vous auriez voulu être peintre ?
Non, c'est un voyage qui est un voyage réel et qui est en même temps, immédiatement, un voyage intérieur. Est-ce que j'aurais voulu être peintre ? J'essaye de l'être avec des mots, avec de l'encre, avec le feutre en particulier, ce qui me sert à écrire. J'écris toujours à la main. J'essaye de peindre des mots.
Bonjour Patrick Lou.
Bonjour.
Durer encore, c'est un beau titre, c'est une belle promesse qui concerne aussi bien votre aimé, qui est malade, mais aussi vous, à ses côtés. Tenir encore.
Oui, durée, la question de l'écriture est toujours liée au temps, à la durée. C'est peut-être une utopie, mais avec ce livre, j'essaye de la faire durer. Et les gens qui le lisent, les gens qui l'ont connu, ou des gens qui ne l'ont pas connu aussi, retrouvent peut-être quelque chose qui appartient à l'universel, à leur histoire à eux. Et finalement, fondre et émietter cette douleur et cette absence m'a aidé à écrire et le reconstituer dans un livre, refait une sorte de pain que je peux transposer et transmettre.
Voilà. Pour que tout ça dure encore.
Pour que cela dure, oui.
Au pied de la lettre, il y a une place aussi pour les critiques littéraires, journalistes et chroniqueurs. Bonjour Stéphane Bataillon.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au quotidien La Croix dans la rédaction du Tout Nouvel Hebdomadaire. Chaque semaine, ce magazine propose, parle d'actualité, de culture, de poésie aussi.
Avec chaque semaine un poème pour la route, un poème récent, publié en dernière page, la belle page.
Pleine page, voilà, sur la poésie.
Sur la poésie.
Et puis vous-même, vous êtes poète, votre dernier recueil, Contre la nuit, est publié chez Bruno Doucet. Vous nous présenterez votre coup de cœur tout à l'heure. Toujours avec nous, Camille Perrier, qui m'aide à préparer l'émission et qui nous partagera quelques lectures. Alors Christian Bobin, dans La nuit du cœur, paru l'an dernier, une sorte de lumière passe par les vitraux conçus par un certain Pierre Soulages. Votre nouveau livre, Pierre, porte le prénom de l'artiste, bientôt centenaire, pour dire l'admiration ?
Une gratitude envers celui qui a inventé d'aller chercher, d'attraper la lumière dans ce qui apparemment la nie le plus. C'est une manière d'aventure, son travail. C'est une manière d'aventure. L'écriture aussi est une aventure, d'ailleurs. Je crois même que c'est une écriture absolue. Que c'est une aventure absolue. Pour parler de l'œuvre de Pierre Soulages, il faudrait revenir à une situation d'enfance, mais qui a jamais quitté son enfance ? Je ne suis pas sûr qu'il existe vraiment des adultes. La situation est la suivante, c'est d'être comme convoqué par sa mise au monde, immédiatement convoqué dès le point de naissance. On est convoqué dans quelque chose qu'on ne comprend pas, que par moments on ne supporte pas, dans un mélange de voix et de silence qui sont les unes et les autres effrayantes. Et puis, un des premiers recours me semble-t-il, ce sont les yeux, ce que nous donnent les yeux, nos yeux, les petits yeux cloués comme ça dans le visage arrondi des nouveau-nés. Et quand ils commencent à peu près à fixer quelque chose dans les lointains, sur un mur par exemple, sur une tache sur un mur, la vie commence et le secours arrive par des choses aussi élémentaires, aussi simples que ça, à peine discibles. Et c'est quelque chose que, me semble-t-il, on retrouve dans le travail de Pierre Soulages, dans son travail qui est fait avec presque rien. On pourrait dire que ces tableaux sont arrachés à la paroi d'une chambre d'enfant. Et il n'y a pas de papier peint, il n'y a pas de figure représentée, il n'y a pratiquement rien. Et en fait, il y a tout, puisqu'il y a la lumière qui vient taper sur cette paroi.
Il y a tout, il y a la lumière, il y a nous aussi. Vous écrivez un moment, mettez-vous devant un outre noir, vous n'aurez jamais été autant regardé. Et encore un peu plus loin, vous écrivez, on est devant quelqu'un et c'est nous.
Oui. Je crois que c'est l'effet de toute vraie beauté, une beauté qui n'est pas illusoire, qui n'est pas mensongère, qui console, mais qui n'est pas consolatrice, qui n'est pas faussement consolatrice. Quand on est devant on peut être devant un poème, on peut être aussi devant une personne qui a l'intelligence de deviner quelque chose en vous que vous-même n'avez peut-être pas encore atteint. Eh bien, à ce moment-là, on est dans une sorte de un mélange de réveil et de sidération. Et parce que, tout simplement, devant une peinture superbe, au sens où superbe voulait dire jadis orgueilleux, je parle ici de l'orgueil et de la fierté qu'on voit chez les animaux sauvages, par exemple. Un cheval qui se cabre. La peinture de Pierre Soulages, c'est un cheval noir qui se cabre devant vous. Et quand vous voyez les yeux roulants, les yeux de prune noire du cheval, vous vous voyez dedans, vous découvrez quelque chose de vous. Mais je le dis aussi, c'est la même chose quand je me perds. Je me perds et je me retrouve dans des lectures, notamment de grands poètes, comme les poètes russes, comme Akhmatova par exemple. Eh bien, quand vous lisez un poème d'Akhmatova ou d'un de ses collègues de la Russie, à demi paralysée à l'époque, quand vous lisez un poème, qui est une chose extrêmement simple, un poème, pour le dire, c'est la contraction du langage dans le temps d'un éclair. Donc, on ne peut pas faire commerce avec un poème. Pour faire commerce, il faut installer le client dans la durée et il faut essayer de l'attraper et de lui mentir. Un poème ne ment pas. Un poème est d'une densité effarante, à peu près comparable à celle de l'éclair. Et là, étrangement, dans la stupeur, vous vous retrouvez. C'est vous-même que vous découvrez. C'est votre deuxième naissance et la vraie naissance, par la beauté, dans la beauté. Vous êtes devant vous-même et vous n'y comprenez merveilleusement rien.
Il y a les poètes, il y a les auteurs que vous citez hein, dans ce livre, d'Hôtel, Jean Grosjean, Paul Valéry. Ce sont des auteurs qui sont poètes à la fois.
Oh, le pauvre Paul Valéry. Je lui fais un sort un peu pas très enviable, mais c'est un poète officiel, il s'en remettra. Il y a surtout André d'Hôtel et Jean Grosjean passe de façon furtive.
Oui. Et il y a André d'Hôtel quand même, auquel vous tenez beaucoup et qui est peu lu, pas assez.
Vous parlez de Grosjean ?
De d'Hôtel.
Oui, c'est vrai.
Grosjean aussi, on peut toujours lire Grosjean.
C'est vrai. Mais les deux, on peut avoir accès à eux et justement... Ça se raccroche à votre précédente question. Si on a accès par simplement un livre, même de poche à Grosjean ou à André d'Hôtel, on aura accès à nous-mêmes, profondément à nous-mêmes. Dans ce train qui traverse la nuit, qui est une nuit singulière, la nuit de Noël, c'est pas une nuit très favorable aux voyageurs. Les maisons sont repliées sur elles-mêmes. Sur le bruit des papiers cadeaux et sur le semblant des familles. Mais dans cette nuit, dans ce train, j'ai pour moi la compagnie bienheureuse des morts qui ne sont pas morts, qui sont beaucoup moins morts que certains vivants. Je veux dire les poètes, je veux dire les auteurs. J'ajoute aussi mon père, j'ajoute aussi une personne aimée qui n'est plus de ce monde. Je les sens traverser le wagon. Ils ne sont pas tout à fait à côté de moi, mais ils ont pris le même chemin et ils m'accompagnent et ils m'aident dans ce trajet.
Les morts ne sont pas plus loin de nous que les vivants, dites-vous.
Non, non. Ils sont même les morts qu'on a eu la chance de voir, auxquels notre visage s'est heurté dans des éclats de lumière. Ces gens-là, hommes ou femmes ou enfants, sont porteurs d'une vie extraordinaire après leur vie. Ils sont accompagnants de démunis que sont tous les morts et tous les mourants et tous les blessés. Tout d'un coup, en moins d'une seconde, puisqu'ils passent hors du temps et hors du monde, ils passent hors du temps, mais en moins d'une seconde, donc, si je puis dire, ils passent de l'état de démunis à l'état de compagnons extrêmement précieux et de gens qui nous aident. Et je ne sais pas pourquoi et ni comment ils nous aident, parce qu'ils n'ont plus rien et parce qu'apparemment, je souligne, apparemment, ils ne sont plus rien, mais en vérité, ils nous aident profondément. C'est difficile à dire plus.
Et ils sont présents dans ce voyage que vous faites, du Creusot jusque chez Pierre Soulages. Alors, faut le dire, vous le dites, la nuit de Noël, c'est aussi parce que l'anniversaire de Pierre Soulages, il est né le 24 décembre 1919, donc il va fêter là ses 100 ans. Dans ce voyage, vous dites à la fois toute cette présence dont vous parlez, des morts, de la poésie, de la profondeur. Et en même temps, il y a une sorte de quotidien presque avec les passagers du train, avec la gare de Lyon, là où il y a un changement. C'est dans j'ai presque envie de dire, dans la vraie vie que tout ça surgit.
Ah, tout à fait. Mais je ne sépare pas les deux choses. Si vous voulez chercher l'absolu, si vous voulez le trouver, eh bien, cherchez-le dans le proche, dans le très proche. Le quotidien, c'est le seul royaume que nous ayons. On n'en aura pas d'autre. Les religions nous disent qu'il y en a un autre. Peut-être qu'elles ne se trompent pas, mais le langage qui nous est donné, pour l'instant, c'est cette vie-là. On s'en sert dans cette vie-là. On verra après. Ce qui importe, c'est aujourd'hui, c'est le quotidien, et c'est. Mais il n'y a rien de plus précieux. Il n'y a rien de plus. Tenez, je fais ce voyage à côté de Kafka, parce que j'ai emmené en toute hâte, j'ai embarqué un livre d'entretien entre lui et un étudiant. Et c'est un des plus beaux livres de Kafka, étrangement. Toutes les paroles rapportées sont de lui. Je pense à lui, là, tout de suite, en vous parlant, en vous regardant. Je pense à lui. Et les 10 plus belles pages de la littérature, exagérons un tout petit peu, les 10 plus belles pages ayant jamais existé de la littérature n'ont jamais été publiées séparément. Et c'est très dommage. Si un éditeur, ce qu'on appelle les petits éditeurs, m'entend, j'aimerais qu'il fasse quelque chose.
Lancez votre appel.
C'est dans le tome 3 de la Pléiade. À la fin, vous savez, en tout petit, en réduit, en compressé, il y a des notes qui s'appellent paproles. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement ce poète et penseur immense qu'est Kafka, qui est dans l'orée. Il est en train de sortir du bois de sa vie. Il va entrer dans la clairière qui brûle les yeux. Il va mourir dans 2-3 jours. Il est beaucoup visité. Il est dans une chambre, il est alité, son larynx est atteint, il ne peut plus parler. On lui amène des fleurs, beaucoup de fleurs. Et dans les derniers écrits de cet homme, ce sont des tout petits papiers, puisqu'il ne peut pas parler, où il se soucie, mais d'une façon magnifiquement obsessionnelle, des fleurs qui sont là. Il demande qu'on fasse attention. Il demande que, par exemple, on n'écrase pas la tige des pivoines, qui sont ses fleurs préférées. On ne les plaque pas sur le fond du vase, parce qu'elles risqueraient de ne pas savoir prendre l'eau. Il demande qu'on donne à boire au lilas, dont il voit, lui, alors que lui ne peut plus boire, mais il remarque la soif du lilas et il se soucie de lui. Ce souci du très quotidien, du très éphémère, c'est ce que je sais de plus beau, c'est ce que je sais de plus grand et c'est ce que je sais d'absolu. Donc le quotidien, c'est le quotidien, c'est l'éternel. Le quotidien pris dans ce souci amoureux d'un homme ou d'une femme devient l'éternel. Et il n'empêche qu'il passe.
C'est ce qu'on verra dans le livre de Patrick Clou. En même temps, c'est une question aussi de que faire de son existence. Et vous écrivez, tâcher d'être humain et sourire d'échouer aussi parfaitement.
Oui. Oui. Pas plus. C'est une grande ambition d'être humain. C'est une grande ambition. Moi, je suis disqualifié pour ça. Je suis bête 10, 15 fois dans la journée. Bête. On parlait de Grosjean. Il y a une définition de Grosjean de la bêtise qui est superbe. La bêtise, dit-il, est l'inattention volontaire à l'essentiel. C'est sa définition de la bêtise. L'inattention volontaire à l'essentiel. Être humain, ça n'existe pas. C'est quelque chose qu'on a à devenir. On n'y est pas encore. Et peut-être que par moments, on y est de moins en moins, d'ailleurs. Momentanément, parce que je reste confiant. Mais on ne peut qu'essayer. C'est un des verbes que je préfère. Essayer. Et puis sourire d'échouer. Oui, parce que c'est pas grave, parce que le cœur bat encore, le souffle est encore dans nos poitrines et dans notre langage. Alors on recommence, on recommencera. C'est un peu le modèle de l'océan.
Sans avoir peur de la fin, vous écrivez « Mourir, c'est laisser ses sandales sur le seuil du temps ».
Oui.
On entre dans un ailleurs.
On entre dans je ne sais quoi, on verra, chacun de nous verra. Chacun de nous verra. On peut dire peut-être le plus tard possible, mais ça ne dépend pas de nous. Mais on verra. On enlève ses sandales pour ne pas salir quelque chose, ou par respect. Je ne sais pas dire plus, parce que cette image m'est venue comme ça, elle m'est naturellement venue, elle m'est naturellement venue. Et il me semble qu'il y a des endroits où d'ailleurs il est convenable d'entrer peut-être pieds nus. Un peu comme dans l'enfance aussi, ça peut avoir ce revers. Ça peut être l'entrée dans un temple qui est impressionnant, mais ça peut être aussi juste le pied nu de l'enfant sur du sable et la splendeur d'un été inattendu.
Les pieds nus pour entrer dans la mémoire, dans les souvenirs aussi peut-être ?
Dans la mémoire et les souvenirs des autres, je ne sais pas. C'est aux autres de. C'est au vivant de. Je crois que c'est au vivant de prendre soin des morts et je sais que les morts prennent soin de nous. Voilà.
Pierre Soulages, il était venu à vous déjà, puisque fin 2018, il y avait une exposition Soulages au Creusot. C'est là, vous le connaissiez déjà, j'imagine, mais face à ses œuvres, des micro-sillons dans sa peinture, c'est là que peuvent aussi se graver des paroles dans l'épaisseur.
C'est une intuition peut-être bête, mais risquée que j'ai eue. Certains de ces tableaux, effectivement, ressemblent à des micro-sillons, ce qu'on appelait jadis, et d'ailleurs on commence à rééditer des disques vinyles, ce qu'on appelait des 33 tours, par exemple. J'ai une inquiétude maladive, presque maladive des endroits où je suis. Je crois qu'on peut percevoir ce qui s'est passé dans un lieu après plusieurs dizaines d'années. Sans rien savoir, il y a quelque chose en nous qui peut être informé si une chose particulièrement heureuse ou particulièrement tragique s'est passé. Je pense que on a chacun une sensibilité extrême et qu'on n'utilise presque pas. Pour parler très très concrètement et très de façon un peu crue, un peu triviale, mais je pense que ça permet de faire entendre les choses de l'invisible demandent à être exprimées de façon très matérielle. C'est comme si notre esprit, appelons-le comme ça, notre esprit ou notre cœur, appelez-le comme vous voudrez, c'est dans ces zones-là. l'esprit ou le cœur de chacun, j'entends, hein, était une Ferrari et qu'on conduisait ça comme une deux chevaux. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. On laisse en friche les trois quarts de notre sensibilité, pour pas dire plus. Et si on la développe, il est possible que des paroles même, je reviens à l'image d'une parole du peintre prise ou d'une pensée du peintre prise dans sa peinture, ou de sa voix qu'on pourrait réentendre, à la limite, on pourrait, devant un tableau de Poussin ou un tableau de Léonard de Vinci ou d'autres, peut-être entendre le plus fragile de l'être humain, ce qui est le plus éphémère et le plus déchirant, c'est sa voix. Il est possible que quand nos paroles sont justes, vraies, quand elles essayent d'être justes et vraies, il est possible qu'elles voyagent ensuite, qu'elles ne partent pas dans le néant.
Mais ça, il faut de l'attention, parce que vous écrivez un moment, il n'y a rien de pire que nous-mêmes dans la vie.
Ah oui. Ah oui, ça, je vous assure.
C'est désespérant, non?
Ah oui, je vous assure.
Comment
on
désespère pas, alors? Expliquez-nous.
Oui. Ah non, mais... non, mais ici, autour de ces micros, il n'y a rien... Enfin, peut-être, je vais être démenti.
Allez-y,
mais il n'y a pas pire que moi. Y a pas... Bien sûr, il n'y a pas... Pour moi, il n'y a pas pire que moi. Parce que j'entends par là... c'est assez simple. Si vous échouez, c'est vous qui échouez. Si vous trouvez que la journée est grise, mais quel était le peintre qui l'a peint en grise, en gris, et qui tenait la main du pinceau, sinon votre main. Voyez, c'est-à-dire que les choses nous sont à chacun profondément imputables. Et pourquoi il n'y a pas pire que moi dans cette vie? Parce que c'est que nous avons chacun une tendance invincible à nous mettre devant nous-mêmes. Mmh. Et donc, nous nous empêchons de passer. C'est très curieux. Il y a une nouvelle qui fait deux pages de Kafka comme ça, qui fait deux phrases, pardon, de Kafka. C'est un homme qui est devant une porte, qui arrive devant une porte. Derrière la porte, il pressent que des choses merveilleuses sont là pour lui, mais devant la porte, malheureusement, il y a un ange, un homme très fort, un homme très, très sévère, tenant une épée. Et donc, l'homme qui arrive n'ose pas s'adresser à lui, reste devant la porte, attend, se dit, l'ange va partir, le monsieur, il va partir, et je pourrais ouvrir la porte. Et le monsieur, il part pas. Et puis, l'homme qui est arrivé là, commence à décliner, ses forces le perdent, il commence à perdre la vie, perdre souffle, et dans le dernier moment, l'homme qui était devant la porte lui dit « Mais pourquoi tu ne m'as pas demandé d'ouvrir ? J'étais là pour toi. J'étais là pour toi. » Voyez ? Et je pense que nous entravons le chemin, nous-mêmes, par moment. Pourquoi ? Je ne sais pas. Par bêtise. Irrépressible.
Patrick Clou, vous avez été longtemps libraire, mais vous êtes aussi écrivain et aussi lecteur et lecteur de Christian Bobin.
Oui, j'ai lu Christian Bobin dès le début. Il parlait de Grosjean et les premiers livres de Grosjean étaient aussi des livres qui touchaient à des paraboles bibliques. Et c'était des petits formats chez Gallimard qui étaient un peu hors collection, avec des couleurs un peu douces. Et les livres de Bobin, quand ils sont arrivés, venaient chez des éditeurs peu connus à l'époque. Et c'était pareil, c'était des petits formats comme ça. Et en fait, il portait un contenu à la fois de merveilleux. Moi, je m'intéresse beaucoup au merveilleux depuis toujours. Ça pouvait être un merveilleux chrétien, ça pouvait être un merveilleux de l'ordinaire. Il parle de Dautel, c'est aussi celui que j'aime bien. Et avec ce petit support qui était ces petits livres, je ne cherche pas à réduire, à minimaliser tout ça, mais il y avait quelque chose de l'ordre d'une prière immédiate. Et le texte que j'ai écrit dans Le Cahier Bobin, par exemple, évoquait ça, c'est-à-dire en fait...
On va y venir, hein, c'est les Cahiers de Lerne dédiés à Bobin.
Oui, et j'étais content d'y participer parce que pour moi ça portait signe et ça portait sens. Et puis ça rappelait des bons moments de nos années de jeunesse, quand j'ai découvert un certain nombre de ses livres, quand j'ai vu à travers le temps qu'il fait pas mal de bouquins qui m'ont touché aussi de lui. Je me suis aperçu en fait qu'enfin... un public pouvait se dire un petit livre a autant de richesse qu'un gros, gros, gros roman. Parce qu'en librairie, si vous voulez, le diktat du roman, et aujourd'hui le diktat du polar, on détruit une partie du langage. Enfin, détruit du parti du langage poétique. Hein. Mmh. On s'entend bien, il y a un langage de l'écriture, de la sociologie du polar, il y a plein de bonnes choses à plein d'endroits, et il y a plein de mauvaises choses aussi.
Il y a des choses qu'on a perdues.
Mais il y a quelque chose qu'on perd, oui. C'est-à-dire qu'en fait, cette espèce de secret de l'écriture à la main, qui peut être chez Bobin, qui était chez Dautel, qui était chez d'autres poètes, qui était chez Armel Gern, qui était chez un certain nombre de poètes de la tradition chrétienne, par exemple, mais aussi d'autres poètes. Je crois que certains pays l'ont moins perdu que nous. Mais en France, les rayons poésie en librairie se sont beaucoup effacés. Et cette espèce de merveille qu'il y avait à un moment donné, ça a été cette renaissance à travers plein de petits éditeurs qui, en fait, ne portaient pas des petits textes. C'était des petits éditeurs qui portaient de bons textes et quelquefois de grands textes. Et Bobin s'est inscrit dans cette logique-là, pour moi, qui était la continuité d'une parabole. Une parabole, c'est-à-dire revenir à une poétique qui, en fait, s'était beaucoup intellectualisée, beaucoup universalisée au niveau... universitalisée, pardon. Elle était moins universelle et de plus en plus
universitaire. En tout cas, réduite par le regard universitaire.
Oui, le côté savant de l'écriture poétique des Michel Deguy, des gens comme ça, qui est tout à fait légitime dans leur logique à eux, a beaucoup, à mon avis, éloigné, cette relation à des objets courts, mais qui étaient denses. Et ce qui m'intéresse dans le langage, quelquefois, à travers la poésie en prose, à travers ce que je croisais être, une transmutation, justement, du quotidien, en partie d'émerveillement et en partie d'accompagnement, cette langue-là, Bobin, a été un des plus qualifié à un moment donné pour nous la rendre. Et comme il y a eu un certain succès de son œuvre, je crois que ça a redonné confiance et ça a redonné sens chez un certain nombre de libraires à cette sorte de diversité, à ces petits livres qui disaient de grandes choses. Voilà. Mmh. Voilà le jeu.
Christian Bobin, faut fuir l'écriture savante ?
Patrick Clou était entre autres, était libraire. Il est poète, il est dans un état un peu d'enfance du cœur et profonde, et puis libraire, amoureux des livres, dévoré par les livres. Mais est-ce qu'il faut fuir les livres savants? J'en lis des livres savants aussi par moment, c'est très simple. Qu'est-ce qui va nous aider quand tout se dérobe? Qu'est-ce qui va nous aider? Est-ce que ça va être un volume de 600 pages avec tout un défilement de toute une termitière de notes en bas de chaque page, avec toutes les fourmis qui traversent comme ça et qui précisent les précisions elles-mêmes? Est-ce que ça va nous sauver? Est-ce que ça va nous ramener en plein jour, au jour, avec le courage de faire face au jour terrible? Ou bien est-ce que ça sera pas plutôt quelque chose de simple, mais pas de simplé, de simple et de profond? Le simple est le vêtement du profond. C'est pas quelque chose de niais, de mièvre et de facile. Il y a des choses faciles, niaises et mièvres. On va les laisser à la porte. Mais le simple dont je parle ici, et je sais que Patrick serait d'accord, c'est le profond qui fleurit. Voilà. Mmh. Et on a besoin de ça. D'abord et avant tout, parce que c'est ça qui va venir à notre secours à certains moments. Ce sont pas les livres érudits qui font leur travail, qui cheminent à pas très lent. C'est beau la lenteur, mais voilà la réponse.
On va vous suivre dans le cheminement avec votre voyage en train. Pierre, le livre de Christian Bobin publié chez Gallimard.
Dans mon sac, du mauvais pain avec du mauvais fromage. La nourriture première suffisante. Sera page 7 du livre de Dautel. Cette phrase que je découvre comme si mon cœur l'avait écrite. Nous devrions savoir d'abord que tout est loin à jamais, sinon ce ne serait pas la vie. Je ne lis jamais pour réfléchir. La vie s'en va lorsqu'elle nous voit froncer les sourcils pour penser. Elle croit que nous sommes fâchés. Je lis pour être sonné de coups, comme je le suis par cette phrase de cuir noir. La beauté, la vérité, toute chose qui importe dans la traversée du jour unique qu'est notre vie, ne prennent aucun égard. Elles ont raison, sinon elles ne nous atteindraient jamais.
Nora Lucas qui chantait a cappella. Au pied de la lettre aujourd'hui, je reçois Christian Bobin pour Pierre, publié chez Gallimard, et Patrick Clou pour Durer encore, chez Actes Sud.
Au pied de la lettre, présenté par Christophe Hénin.
Patrick Clou, votre livre est consacré aux derniers mois de votre femme que vous avez accompagnée. Un récit plein de tendresse et de pudeur, de délicatesse aussi, plein de vie, j'ose dire. Vous dites dans votre livre, accompagner ma femme en sa grande faiblesse est devenue mon île, ma mère intérieure, une pauvre cabane en paille et un curieux jardin. Ce livre était nécessaire.
Oui, ce livre a été nécessaire. Il m'a aidé. Et je crois que d'une certaine façon, il l'a aidé aussi parce que je lui disais que j'écrivais des choses sur elle. Évidemment, c'était pas la totalité de ce texte. Ce texte, je l'ai écrit le mois après son départ. Et j'étais dans son fantôme, en fait. Et donc, le livre est très habité d'une présence qui ne s'arrête pas comme ça. Ce que dit Christian, c'est vrai. La mort a quelque chose à nous dire. Et les gens qui s'en vont sont finalement profondément bavard, surtout si la relation antérieure l'a été. Avec ma femme, j'ai eu une grande complicité dans la vie commune. C'est une longue histoire. On avait beaucoup de langues partagées, de passions qui étaient les mêmes, la graisse, la lumière, une part charnelle du corps, une part rêveuse, une part dissidente aussi, et en même temps, un regard assez social, assez ouvert, assez réel. C'est-à-dire qu'en fait, on n'était ni dans un petit nuage, ni dans la profusion consumériste. On essayait de trouver du sens et on partait dans notre tête tranquille, après avoir travaillé longtemps, rencontré pas mal de monde. Et puis la maladie est arrivée, elle a pas mal lutté. On a cru qu'on allait gagner, on a pensé que ce cancer, avec les techniques de chimio, pouvait peut-être arriver à tout maintenir, jusqu'au moment où c'est devenu très difficile pour elle. Elle a été lucide jusqu'à la fin. On a eu cette tendresse jusqu'au pratiquement des derniers jours, jusqu'à la fin psychique, la fin apparente, quoi. Et puis la fin réelle après. La chance que j'ai eue, je peux le dire, c'est une chance même dans ce malheur, c'est d'avoir été avec quelqu'un de conscient jusqu'à la fin. C'est-à-dire, en fait, de ne pas être dans une situation où l'autre est perdu, l'autre est parti, où le cerveau, la tendresse,
il y a une présence,
la reconnaissance. Voilà. Et cet accompagnement c'était une part d'amour, et j'ai voulu rendre, sans tomber là aussi dans la mièvrerie, ni dans cette espèce de conjugalisme stupide, hein, je suis pas du tout en train de faire, je suis en train de dire l'éloge d'une difficulté à tenir, c'est pas du tout l'éloge bébête d'une relation. Cette relation était riche et l'accompagnement de la maladie faisait partie de la richesse de cette relation.
Et voilà. L'écriture a aidé à cela. Vous écrivez « Écrire certains soirs m'autorise à croire que je peux prolonger en leur trame et tissage longuement les jours de ma compagne. Je vis à hauteur d'elle et elle ne cesse de s'affaisser. »
Oui, il y a cette espèce de double jeu entre le langage qui essaye de retenir et puis la vie qui s'en va peu à peu. Mais le langage, ça fait longtemps que je m'en occupe. C'est une belle histoire pour moi. Je me suis autorisé un jour à écrire, très tardivement. Je n'ai pas du tout d'un milieu cultivé. Et la rencontre avec des écrivains en tant que lecteur, mais aussi la rencontre de Georges Aldas, la passion que j'avais pour Henri Beauchau, un certain nombre d'auteurs croisés, et puis le goût du langage qui est donné depuis l'enfance, font que j'ai envie de traverser comme ça ce monde à mon rythme, sans être forcément dans le bruit des médias. C'est pour ça que j'aime bien la radio, parce que la radio parle à l'oreille, donc au cœur. Et j'ai envie de dire qu'au fond, ce livre fait aussi partie de la continuité de ce que j'ai tenté d'écrire autour de l'émerveillement et autour de la quotidienneté exaltée un peu.
Oui, il y a ce rapport au temps, hein, parce que le sous-titre de votre livre, c'est un journal intermittent, parce que le temps s'arrête ou parce que on ne peut pas tout dire.
Parce qu'on ne peut pas tout dire, parce que l'intermittence, c'est celle de la maladie, et ces cancers ont la capacité d'avoir des rémissions, vous croyez regagner, donc ce temps change, vous remontez sur une petite colline et vous voyez un peu à vue, et puis après, comme c'était beaucoup d'étouffement avec des gros ballons d'oxygène, quelque chose de très lourd, vous voyez vraiment à court terme. Voilà. Donc cette intermittence, c'est celle en fait de la du jeu entre la mort et la vie, et du jeu entre la respiration et l'absence de respiration, entre la panique, entre les nuits inquiétantes et puis les accalmies. Et ce rapport au temps a fait que je me suis beaucoup rétréci, enfermé. Je n'osais même plus prendre un train il y a encore 6 mois. Je suis en train de renaître peu à peu, mais elle m'aide aussi, elle revient par petits flashs comme ça, et des séquences de bonheur reviennent. Mmh.
C'est ce que vous appelez ce présent d'incertitude,
c'est
qui
ça.
Vous a envahi.
Oui, et c'est un livre heureux en fait. C'est un livre heureux sur un malheur. Voilà. Mmh.
Vous écrivez aussi un des demi-mots à eux seuls font de longues phrases.
Bien sûr.
Quand c'est ce qui reste.
Bien sûr.
Le langage pauvre.
Bien sûr. Oui, oui, oui. Tout est chargé de toute façon. C'est... On a le droit au grand repas, grande nappe sur la table, les amis, la fraîcheur de l'échange. Et puis on a aussi la dérélection, la tristesse, le fait qu'au fond, la vie vous fout une calotte énorme, la souffrance, de voir quelqu'un qui va petit à petit perdre son image du corps, perdre bien autre chose que ses cheveux, perdre aussi sa sensibilité. Les chimios détruisent beaucoup les sensibilités au niveau des mains, et puis petit à petit la douleur, métastasant dans les poumons et métastasant dans les os, devient quelque chose d'effarant. Ma femme était une oursonne à un moment donné, et moi j'étais plus du tout capable d'être un dresseur, et à ce moment-là je pouvais rien faire, et on était obligé de se réfugier à l'hôpital comme des mendiants, parce qu'il y a un côté mendiant dans la maladie. Mais en même temps, c'est une expérience que je trouve, qui m'a grandi. Je trouve que je suis, alors là, on parlait de la bêtise, je crois que je suis moins bête depuis, vraiment. Même ça, c'est une expérience. Tout le monde traverse des expériences difficiles. J'aurais voulu que ça arrive plus tard. C'est arrivé maintenant. J'ai essayé de le transmettre dans un livre. Mais ce livre-là, beaucoup de gens le vivent et l'ont peut-être pas écrit. Mais c'est quelque chose qui appartient à tellement de gens. Ces cancers sont tellement... C'est une pandémie, en fait. Mmh. Mais ce n'est pas une réflexion sur le cancer. C'est un chant d'amour à l'autre qui s'en va. Voilà.
Et ce que vous recevez aussi à travers toute cette épreuve, c'est encore... J'aimais pourtant les brouffes, c'est un comportement révolu. J'ai découvert la clarté. Je ne fais plus de ronds dans l'eau pour plaire. Je ne me complais plus dans la plainte, la suffisance et la facilité. Vous aussi, vous avez été décapé.
Oui, parce que j'aimais beaucoup le langage, et le langage sert aussi à faire l'intéressant. C'est ce qu'on dit, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Christian vient de le dire, c'est tout à fait net. Et on doit se battre, nous qui sommes des hommes de mots, on doit se battre aussi contre la séduction du mot. Il faut de temps en temps que la vie nous rappelle ça. Et là, pour le coup, elle me le rappelait en pleine figure, quoi. Oui, mais ce qui est douloureux, c'est la souffrance de l'autre qui est intériorisée dans l'autre. Quoi, c'est ça. C'est ce qui est le plus dur, c'est de voir quelqu'un souffrir comme ça.
Qui devient inaccessible.
Oui, puis on se dit mais pourquoi tant de souffrance, pourquoi ça. Il n'y a pas d'explication, et on peut tout remuer. Il y en a pas, en fait, il y en a pas.
Surtout quand la question vous est posée par votre femme, vous dites un moment pourquoi moi.
Oui.
Elle et posait l'impuissance cette à répondre.
Ouais, elle posait cette question. Elle posait cette question, mais en acceptant. C'est-à-dire qu'elle avait du courage et une résignation profonde. Je pense qu'elle avait quelque chose de chrétien en elle qui a longtemps persisté. J'ai appris aussi un peu dans ce livre à dire une sorte de prière. Parce qu'en fait, je vivais dans la légèreté des jours. La retraite arrivait, on disait on va voyager, on va pouvoir remarcher dans des chemins grecs qu'on adorait. Et finalement, tout ça a été cassé d'un coup, quoi. Et une autre expérience est venue, et l'expérience de l'accompagnement, c'était une autre île. On était vraiment dans une île. Des amis passaient un peu, mais la fatiguaient, donc on voyait moins de monde. Et cette île était aussi une île importante que j'imaginais pas un jour découvrir. Je peux pas la souhaiter à personne. Ce qui est très triste, c'est qu'en fait, ce sorte de grand poisson qui était la relation, s'est échoué sur le sable. Et quand vous voyez ce poisson sur le sable, vous dites c'est dur parce qu'en fait, au final, c'est pour mourir, c'est pour étouffer, c'est pour perdre pied, quoi. C'est pour plus être là. Et ça, c'est assez violent, quoi. Quoi qu'on dise, on peut tout intellectualiser, mais le départ de quelqu'un est violent. Et puis après, maintenant, bien, ce livre est une sorte d'ex-voto. Je le promène comme un petit ex-voto, voilà. Mmh. Si ça peut aider des gens à accompagner Ce livre a aussi du sens comme ça, et il éclaire un peu le visage de ma femme, encore quelques années, j'espère.
Nous dépendons de la possibilité infinie d'une trace ouverte sur la clarté.
Oui, la clarté, oui. Il faut arriver quand même à se débarrasser de toute cette morbidité. Faut renaître, et il faut croire qu'en fait, l'autre vient nous dire la vie porte sens aussi par moi. C'est-à-dire qu'elle me parle encore, et c'est à moi de l'écouter et de pas la salir.
Christian Bobin, Durer encore, le livre de Patrick Clou, est particulièrement touchant.
Oui, je l'ai lu. Je l'ai lu et je l'ai violemment aimé. Violemment aimé. Je trouve que Patrick en parle très très bien. C'est un... Les jours les plus précieux de sa vie et de son épouse sont dans ce livre. Non pas tant les jours passés que les jours d'insoutenables. Comme si le plus précieux était enflammé. Et comme si les flammes elles-mêmes devenaient précieuses. Et c'est beau, c'est très très beau. C'est très 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 beau de demander à l'écriture de veiller sur le feu. Quand quelqu'un s'en va dans la nuit, et le livre est là pour que quelque chose continue à brûler, dans tous les sens du mot brûler, mais aussi éclairer.
Très beau livre. Il y a du Bobin un peu dans ce livre. Je ne sais pas si vous pouvez répondre, mais...
Eh bien, moi, je crois... Des gens disent que certains de mes livres, surtout ceux qui touchent au merveilleux, rejoignent des univers de Bobin. Mais je pense pas à une influence dominante, mais le livre a été écrit tellement dans une ferveur que c'est autre chose. Pour moi, c'est autre
très
chose.
Très personnel, vous inquiétez
mais
pas.
Mais j'avais beaucoup aimé La Puisque Vive, par exemple. Mmh. J'ai pas relu les livres de Bobin depuis un certain temps. Il m'a renvoyé ce livre que j'ai beaucoup aimé, La Nuit du Cœur. Mmh. Et c'est un peu le hasard des circonstances de ce cahier qui est un cahier plein de joie et plein de gens différents, plein de musiciens, plein d'amateurs de la parole et que Bobin sait émettre. Tout ça, c'est un peu le hasard du cahier de Lerne et de cette rencontre, par exemple. Autrement, ce livre, il va avoir sa petite vie en librairie, un peu discrète, un peu humaine, un peu transmise par des libraires. Et puis voilà. En fait, il n'y a aucun lieu d'influence dans cette écriture, et il y a toutes les influences d'un type qui lit depuis 40 ans.
Et puis aussi ce travail que vous faites, j'ai envie de dire, dans l'écriture, d'une sorte de dépouillement. Hein. Vous expliquez aussi à un moment, l'impérieux domaine du peu, à la fois réducteur et subtil, se charge de vous décaper. Vous acceptez ce chemin.
Oui, parce que, si vous voulez, je suis bavard, et maintenant, j'essaie de parler. C'est un peu différent. J'étais bavard de par mon métier, puis maintenant je trouve que dans mon écriture, je suis vachement silencieux dans ma campagne, je suis assez isolé, pour pas dire carrément seul. Et au final, j'écris d'autres livres autour du deuil, autour d'écrivains qui, à la fin de leur vie, vont vivre des expériences liées à la nature pour essayer de sauver les derniers mois. Je suis encore très habité par ces questions-là. La mort m'a quand même bien, bien secoué depuis quelque temps et elle questionne maintenant la littérature que je lis. Je ne peux pas lire grand-chose d'autre que des ouvrages assez sérieux, assez graves. Et c'est difficile. Dans le train, j'ai relu La Nuit du Cœur. Et là, je sentais une grande liberté ouverte. Une grande liberté qui est... D'abord, ce livre est dans un format qui me plaît beaucoup, parce que c'est un format où j'avais lu les livres d'Aragon, le livre d'amour à Elsa... c'est des jolis formats, c'est des formats qui oxygènent l'écriture. Et j'ai à la fois besoin des poètes pour cette oxygénation profonde et cette liberté d'oxygénation qui nous donne et qui est une grâce. Et puis j'aime aussi les journaux d'écrivains, l'écriture un peu tassée, un peu complexe, un peu malheureuse, un peu que je vais retrouver chez d'autres auteurs. C'est multiple en fait.
On va écouter un extrait de votre livre, lu par Camille Perrier, je vais y arriver, où vous parlez justement de cette importance du langage.
Le langage nous aura servi longtemps, à ma femme et à moi. C'était notre royaume actif, notre alcool blanc, notre esprit de feu, notre île intérieure volée à la cité. Nous étions des Indiens et cela nous convenait. Nous avions établi un répertoire intime de nos transmissions, de vrais signes de fumée. L'art des Sioux n'avait aucun secret pour nous. Un code vivant, amoureux, très court et physique, préludé à nos ébats. Ce sabir maintenait assez d'élégance entre nous pour durer encore une décennie. On singeait des publicités, à cœur croisé rien d'impossible. Au téléphone, tu me jouais du blues. Cela nous amusait. Nous étions deux pour ne jamais être seuls. Une grammaire d'essence à l'anguille nous rattrapait. On aimait mutuellement nos peaux, notre odeur, l'étincelante pudeur de nos souffles. Un secret sensuel guerroyé de haute lutte. Il gît maintenant sur le sol d'une clinique, où tu me rames et où je parle tout seul.
Ραγίζει απόψε η καρδιά με το μπαγλαμαδάκι. Πολλά κομμάτια έγινε σπασμένο ποτηράκι. Θυμήθηκα που πίναμε σε τούτο το.
Chanson nomade d'Angélique Ionatos, citée dans le livre de Patrick Clou, Durée encore, qui est publié chez Actes Sud. Et je reçois avec Patrick Clou Christian Bobin pour son livre Pierre, publié chez Gallimard.
Au pied de la lettre, RCF.
Fin de bataillon, depuis le début de cette émission, on parle poésie et je sens que vous êtes là tout attentif, mais vous allez aussi nous partager un moment de poésie avec ce coup de cœur, Sébastien Février, Solitude Europe.
Tout à fait, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le besoin d'un merveilleux du quotidien. Je voulais vous faire découvrir la voix de Sébastien Février, poète belge né en 1976, qui vient de recevoir le prix Apollinaire Découverte pour son premier recueil, donc qui s'appelle Solitude Europe. Et avec ses mots du quotidien, une narration limpide, élaborée pour décortiquer le réel avec minutie, il témoigne de réunions interminables en entreprise, de manifestations place de la République à Paris, d'une Europe qui semble se diluer comme une dune sous la mer. Mais il parle aussi de l'été, des pique-niques, des souvenirs d'enfance, telle cette petite fille rencontrée autrefois qui était amoureuse de MacGyver, le héros de la série télévisée.
Aïe, aïe, aïe.
Tous ces moments simples qui participent aussi à signer notre époque, à l'encre de l'intime. La poésie de Sébastien Février est une poésie qui rehausse les jours avec la matière même de nos banalités. Un garde-fou pour ne pas se retrouver comme ce cadre supérieur, débordé, dépeint dans le poème Burnout, confondant l'effervescence d'une fin d'après-midi avec un rêve d'absolu. Laissez-moi vous lire un poème littoral qui peut résonner avec la question des migrants ou d'autres choses. Les interprétations sont ouvertes. Difficile de dire où finissait le camp et où commençait la dune. Même le sable avait été rendu à lui-même. Les oiseaux dispersés. Et l'eau qui avait débordé des bidons, transportée de tente en tente, cette eau avait été absorbée elle aussi par le sable retourné. Le long de la mer, il ne reste que des amoncellements d'objets disparates, pas même une silhouette qui viendrait lancer ses filets et arpenter la grève. C'est peut-être cela le pire. Le silence qui vient à l'heure des marées.
Merci beaucoup. Alors, rappelez-nous le titre.
Donc, c'est Solitude Europe de Sébastien Février et c'est publié au Chêne.
Voilà, prix Apollinaire Découverte 2019. Des poètes ou des gens sensibles à la poésie, il y en a eu beaucoup qui ont voulu participer donc à ce cahier de Lerne qui vous est dédié, Christian Bobin, dirigé par Claire Thiévan et Lydie Datas. Vous avez vous-même, hein, Patrick Clou, vous l'avez dit tout à l'heure, écrit un très beau texte sur le travail de Christian Bobin. Il a fait son œuvre de journalier de nos états meurtris, peine et joie confondues, l'éphéméride de nos étroits bonheurs.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il est arrivé comme une nouveauté pour moi. Et comment dire, Enfin, Bobin nous a autorisé au simple. Et ça, c'est pas mal, parce qu'on venait d'après 68, après les années 75, beaucoup, beaucoup de théorisation, beaucoup de sciences humaines, beaucoup de... une espèce de Enfin, on avait décortiqué le moi dans tous les sens. Et Bobin venait nous dire autre chose. Il avait été nourri de ça aussi, lui, en partie. Mais il avait des expériences dans le lieu sciences humaines aussi. Et moi-même, j'avais connu un peu, puis j'avais fait des études de philo, et donc j'avais bien été dans cette espèce de surintellectualisation qu'il y a eu après 68. Quand on a volé, si vous voulez, cette espèce de révolution, qui était une utopie, mais qui était un mouvement collectif, on l'a volé en revenant aux mitoyens et aux moyens, au quotidien, et elle s'est réfugiée dans la surintellectualisation. Et Bobin et quelques autres poètes, quelques autres écrivains sont venus comme ça sur leurs entrefaites, sans être dans le milieu littéraire, sans avoir d'entrée, et à travers une espèce de pureté de leur écriture, une espèce de limpidité, ils ont très très vite changé la donne pour quelques-uns, et j'en faisais partie, et pas mal de gens après ont aimé ça, quoi.
Christian Bobin. L'an dernier, c'était l'arrière-pays de Christian Bobin, publié à l'Iconoclaste avec Dominique Panier. Cette année, donc, les Cahiers de Lerne. Ça vous fait quoi, votre œuvre qui est comme ça soumise à ce travail de fond?
Je ne parlerai pas d'œuvre parce que je pense qu'on peut parler d'une œuvre quand la personne n'est plus là.
Alors parlons de votre travail.
Voilà, parce que le travail, c'est quelque chose qui est en cours. Qu'est-ce que ça me fait ? J'ai de la gratitude pour le travail que font ces gens, qu'ont fait ces deux femmes pour le Cahier de Lerne.
Près d'une cinquantaine de contributions aussi.
Une cinquantaine de contributions.
Des textes inédits de vous-même.
Tout à fait. Le travail est considérable. Et si je ne m'y attarde pas, je sais, j'ai une grande gratitude pour... on ne m'a pas enfermé. Voilà, on ne m'a pas enfermé. La peinture est faite, elle est prise, mais je n'en suis pas captif. Elle était faite avec assez d'art et de variété, de variation, et de propos et de regards pour que je puisse continuer dans l'ignorance de moi-même, qui est ma condition pour écrire, dans l'ignorance de moi-même. Mais je suis très évidemment heureux et je remercie vraiment chacun de ceux qui ont contribué à ces études.
Il y a beaucoup de musiciens, j'ai remarqué.
Oui.
Et j'étais très touché, parce qu'on est Cahiers de Lerne, d'habitude, c'est plutôt des amateurs, des universitaires, des lettrés. Et là, il y avait des tons tout à fait différents. Et oui, le texte d'Anne Kefelec est très beau. Je pense que ça rejoint justement ce public de l'oreille, de l'écoute, qui est tout à fait neuf.
De même que, eh bien, vous vous intéressez à Pierre, vous nous mettez Pierre Soulages, vous nous partagez Pierre Soulages, Christian Bobin. Merci à tous les trois pour cette émission. Merci à Pierre-Henri Paget à la réalisation, à Stéphane Bataillon, merci. Pour la poésie, Camille Perrier. Merci Patrick Clou.
Merci
Christian Bobin. Je vais rappeler vos ouvrages. Pierre, donc, de Christian Bobin, c'est paru chez Gallimard. Et puis, donc, les Cahiers de Lerne, consacrés à Bobin. Au Cahier de Lerne aussi, un petit texte, L'amour des fantômes, de Christian Bobin. Et puis, Patrick Clou, votre livre, Durer encore, c'est publié chez Actes Sud. Mais justement, Christian Bobin, dans L'amour des fantômes, on se demande pourquoi on vit, pourquoi on fait ce qu'on fait. Il n'y a pas de réponse. Toute réponse abîmerait la question. On va fermer. C'est la fin.